Mémodio, une mémoire sonore.
Ce soir, on va parler du système Bolloré, car Vincent Bolloré était propriétaire du groupe Job il y a maintenant 30 ans, et il a déclenché la liquidation du groupe et de l'usine. Depuis, il a fait pas mal de chemin pour arriver à se constituer un empire dans les médias, la culture et la communication, au service des idées ultra-conservatrices, dont on entend pas mal parler aujourd'hui. Donc vous avez une table avec pas mal de publications à ce sujet. Trois intervenants vont prendre successivement la parole. Tout d'abord Jean-Pierre Combebiac, qui est un ancien dirigeant national de la FILPAC, la Fédération des industries du livre, du papier et de la communication de la CGT, et donc qui était impliqué dans les luttes des salariés ici à l'usine Job, et qui est maintenant président de l'association Les Amis de l'imprimerie de Job, qui regroupe des anciens salariés et des amis de l'imprimerie qui continuent donc à faire un certain nombre de choses, comme les journées du patrimoine, si vous n'avez pas visité ce bâtiment emblématique, c'est en septembre, et ce soir, notre conférence débat. Marcel Leroux est président du comité toulousain de l'association ATAC, Association pour la taxe, pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. ATAC a édité un gros dossier sur le système Bolloré, qui est à votre disposition sur la table tout au bout. Vous pouvez le prendre et si vous mettez quelques sous dans la boîte, c'est sympa pour l'association. Et ensuite, Pierre Guérinet, qui est éditeur des éditions Au bout de la ville, signataire du livre et contributeur donc au livre Débordé Bolloré, qui est un ouvrage collectif de plus de 100 éditeurs, il vous en parlera, et qui propose des actions de résistance contre la situation actuelle. Voilà, c'est tout pour démarrer. On va faire un moment d'intervention, on aura un moment de débat, de questions, et on reprendra la suite des exposés dans un second temps pour avoir terminé encore par des questions-réponses. Donc je passe la parole à Jean-Pierre Combebiac.
Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que pour essayer de résumer un petit peu la situation que nous avons vécue dans les années 95 jusqu'en 2002, je pense qu'on a programmé de faire un petit visuel, s'il peut être projeté. On a pioché dans les archives, c'est très court, mais je pense que c'est un bon résumé de ce qui s'était passé à ce moment-là, en 2001.
Nous allons maintenant revenir sur le dossier Job. Job, vous le savez sûrement, c'est ce papetier toulousain mis en redressement judiciaire et dont l'avenir paraît plus qu'incertain aujourd'hui. Avant de nous entretenir avec notre invité, Jean-Pierre Combebiac, délégué fédéral du syndicat FILPAC-CGT, nous allons revenir sur les 15 dernières années pour le moins agitées de cette société installée en bord de Garonne. Le commentaire est signé Marc Degly.
En 86, l'usine Job est rachetée par Vincent Bolloré, célèbre homme d'affaires, alors comparé à Bernard Tapie pour ses méthodes. À l'époque, Job réalise un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de francs, mais en 95, Bolloré n'en veut plus, l'entreprise est vendue pour 1 franc symbolique à la société GECO France. GECO France demande une liquidation judiciaire, la cour d'appel de Toulouse ordonne une mise en redressement, elle permet à la société allemande Schäufelen d'entrer en piste. Fin 95, Schäufelen, seul candidat à la reprise, devient propriétaire de Job. L'année d'après, 8 personnes, dont l'ancien PDG de Job, sont mises en examen, certains même écroués, pour détournement de fonds et abus de biens sociaux sous la gestion GECO. L'entreprise réussit tout de même à reprendre son activité. C'est 4 ans plus tard, en janvier 2000, qu'on apprend que Job est en cessation de paiement. Une nouvelle mise en redressement judiciaire est prononcée. L'Allemand Schäufelen ne croit plus en l'avenir du site. Les salariés entament alors une longue série de manifestations pour tenter de sauver eux-mêmes leur usine. En novembre dernier, la justice donne un sursis à Job pour se trouver un repreneur, mais il ne se bouscule pas. Aujourd'hui, les salariés se tournent vers les pouvoirs publics comme vers un ultime recours pour continuer à travailler. Mais pour l'instant, ils n'ont obtenu aucune garantie.
Mais voilà, je pense qu'on est en plein vif du sujet. Permettez-moi quand même tout d'abord de saluer la lutte actuelle qui se déroule dans une autre papeterie en France qui est près de Périgueux et qui ressemble de près à ce qui s'est passé chez Job, puisque cette entreprise qui est donc dans le cadre d'un groupe Lecta avec des unités de production en Espagne, en France donc, et en Italie, et sous le joug de fonds financiers à la fois français et également de deux fonds financiers américains. Et ils sont en train aujourd'hui de vouloir la liquider. Ils restent sur 1260 salariés qu'il y a eu à une certaine époque. Ils se retrouvent aujourd'hui à être donc 125 à se battre pour le maintien de cette unité de production de papier couché, comme était aussi, je dirais, à Toulouse. Et je voulais donc plus particulièrement les saluer, comme aujourd'hui aussi je peux saluer les salariés des 440 entreprises aujourd'hui qui se battent pour leur emploi. Voilà, donc ce petit parenthèse étant fait, je voulais donc parler de Bolloré, ici dans Job. Et quel est le meilleur lieu, je pense, qu'on peut trouver pour parler de lui. Issu d'un empire industriel, de grands fabricants papetiers et cigarettiers français, transformé en empire financier familial, prenant le contrôle d'un pan majeur de secteur médiatique pour le mettre au service d'une idéologie capitaliste d'extrême droite, tout à son service. Alors, tout démarre dans les années 1850, vous allez me dire, ça remonte bien loin, mais 1850-1870, autour du secteur donc industriel, de ces grands groupes papetiers qui étaient formés, entre autres, par les familles Abadi, qui étaient à Sarancolin, dans les Hautes-Pyrénées. Famille Lacroix aussi, Riss Lacroix, je pense que vous devez connaître, vous reconnaîtrez les marques, qui se situaient à Angoulême et à Mazères-du-Salat, dans la Haute-Garonne. La famille Brunstein, qui aussi avait les marques Zigzag, les familles Mauduit, qui étaient à Quimperlé, dans Bretagne. Et puis, il y avait la famille Bardou, Job, c'est-à-dire Jean Bardou, c'était le sigle, avec donc au milieu, dans un premier temps, un haut, et puis qui est devenu un losange, qui a fait que c'est devenu Job. Et puis la famille Bolloré, qui est créée en 1821, près de Quimper, une unité de production de papier à cigarettes également. Situation qui, à partir des années 1950-1960, vont se voir d'être rachetées entre elles. Et Job prenant elle-même participation dans le capital de la société Brunstein en 1956. Mais en 1986, Bolloré, qui détenait déjà 11% du capital de Job, rachète son concurrent et devient Bolloré Technologies, produisant et commercialisant désormais des marques OCB, Job et Zigzag. Les fumeurs, je pense, doivent les connaître. Au fil des ans et de décennies, les Bolloré prennent le contrôle et le pillage de ses concurrents, dont ils en ont tiré de grosses fortunes. Cette famille bretonne, qui se présente traditionnaliste chrétienne, est fière de parler qu'ils sont actuellement à leur 7e génération à la tête d'un groupe. Quand je parle pillage organisé par Bolloré, c'est bien à partir de l'histoire de Job que je peux mieux l'expliquer. Parlons tout d'abord de Job avec quelques repères marquants. Puisque, comme je l'ai dit, 1838, c'est dépôt de brevet d'invention de papier Job, qui se fait à Perpignan. Ensuite, ça a été en 1848, la création de la société Job. En 1931, c'est l'ouverture de l'usine Job des Sept-Deniers. Ensuite, Job, dans les années 1960, devient aussi spécialiste de papier couché haut de gamme, qui d'ailleurs sert pour les reproductions de produits de luxe. Et entre autres, le Louvre se servait beaucoup de ce papier pour reproduire les tableaux, puisque ce coucher avait cette particularité de pouvoir, je dirais, se rapprocher le plus près de la peinture. Et puis, en 1986, Bolloré Technologies et Job donc, est complètement avalé par lui. Et début, donc, bien sûr, de 1995, puisque là, c'est le début de la lutte pour l'emploi, puisque Bolloré a décidé de se désengager de ce secteur industriel. En 2002, c'est la fermeture totale du site. Et en 2004, c'est la marche donc, qui se fait aussi au niveau des Sept-Deniers et jusqu'à Nord-Bernard pour sauver également le site, l'emblématique site dans lequel vous êtes aujourd'hui. Sachant que bon, en 2010, c'est issu de tout ça, c'est la création également officielle de l'association du collectif Job. Donc, si on peut retraduire un petit peu toute cette histoire de façon très brève au niveau de la famille Bardoux depuis 1903. Bon, l'usine Sept-Deniers, si elle sort de terre en 1931, sur ses 4,7 hectares au bord de Garonne, elle est d'abord issue de la production de couvertures de cahiers de feuilles à rouler. Il faut savoir que se produisait, même si c'était à Saint-Giron que se fabriquait le papier à cigarettes, ici, on faisait aussi la transformation. Et pour les anciens, ils se rappelleront que se fabriquait ce fameux papier bleu qui servait d'enveloppe des cigarettes gauloises. Et donc, tout se fait également sur le site immobilier qu'il y avait sur les boulevards de Strasbourg, avec qui donnait derrière, sur les rues à côté de la rue Roquelaine, sur la rue Job et la rue Claire-Poyat, qui était une des épouses de Job Mordou. Donc, on voit bien que c'est cette situation. À cette époque, donc, la marque était connue dans 70 pays et avait un développement extraordinaire en Afrique, avec, je dirais, tout un tas de capacités de ce côté-là. Ce qui est aussi intéressé, on le verra, ce qui intéressait Bolloré dans le rachat du groupe Job qu'il a fait en 1986. Son succès, donc, bien sûr, de Job, il le doit aussi au XXe siècle, dans ce qui tire les meilleurs des réclames des affiches publicitaires qui ont été créées par des artistes dans le style Art Nouveau, et en signant quelques affiches donc, pour le papier à cigarette Job. Une des particularités, c'était cet artiste toulousain qui était Jean Hatché, qui a été donc cet artiste qui a été distingué pour cet art à cette belle époque. C'est-à-dire aussi à la fin des années 1960 que Vincent Bolloré rentre donc actionnaire à Job, comme je l'ai dit, et sur l'ensemble du groupe, puisque ça a été pour lui quelque chose d'intéressant, de fait de l'immobilier qui était généré, donc, dont je parlais tout à l'heure sur le boulevard de Toulouse, mais il y avait aussi à Perpignan, un secteur immobilier en plein centre de Perpignan et qui est devenu d'ailleurs, pour le dire, la bibliothèque municipale directement de Perpignan. Donc, bâtiment extrêmement populaire et emblématique de cette ville. Ce fleuron donc, a donc connu les déboires du personnage où il vend les actifs immobiliers et donc, à partir de là, c'est le dépeçage du groupe Job qui transfère des productions dans le groupe Bolloré, en se débarrassant d'une partie assez rentable pour lui de cette usine de Saint-Giron, et en gardant bien de garder toutes ses implantations en Afrique. Ce changement de propriétaire va entraîner un changement complet de logique économique de l'entreprise industrielle familiale, voire passer très vite à une activité boursière agressive. En effet, Vincent Bolloré va appliquer à Job des méthodes qui préfigurent les méthodes de prédateurs financiers qu'on va lui connaître par la suite. Il va piller donc ce patrimoine à Job pour récupérer les liquidités qui lui sont nécessaires à ses raids boursiers. Finalement, c'est en 1995 que Vincent Bolloré dilapide l'usine de Sept-Deniers pour un franc symbolique à la société GECO, qui s'avère être une société écran, complètement vide, sachant que cette société est en cours base à Londres, siège social, avec tout capital social de 15 livres. Tout ceci, donc, bien sûr, pour éviter que le nom de Bolloré soit directement lié à la casse organisée et à la bataille des salariés, fort de leur syndicat CGT, dont il sait qui sera un obstacle à cette casse. D'autre part, le papetier allemand Schoeffelin, qui s'était entendu avec GECO pour acquérir uniquement l'activité commerciale de la marque, fait face à la détermination des salariés en grève et il est contraint de reprendre l'usine en 1996, mais en supprimant toute la partie façonnage, soit 150 salariés. L'association Après Job donc, est créée par les salariés qui restent dans l'entreprise pour rester solidaires dans l'application du plan qui va les aider aux salariés qui ont été licenciés dans leur reconversion. Mais au bout des 5 années qui se sont suivies, Schoeffelin, alors qu'il contrôle totalement la trésorerie et la chaîne de production, amont et aval, met Job en situation de faillite. La liquidation judiciaire est prononcée, certes, avec le regret des salariés de n'avoir pu maintenir l'usine en activité et extrêmement donc grand au niveau de cette situation de regret, mais à contrario, valorise aussi le succès syndical qui, au bout de ces 6 ans de lutte, permet d'obtenir un accord collectif avec un plan social de 100 millions de francs qui permettra que chaque salarié trouve sa solution sociale. À noter que son application dans les mois qui ont suivi, grâce à l'association Après-Job, créée pour l'organisation syndicale, permet le maintien du rapport de force et gagne son application pied à pied. La continuation de la lutte permettra donc aussi d'obtenir le maintien du bâtiment Job, qui était voué à la destruction, pour en faire donc, parce qu'il ne voulait surtout pas que ça reste et que ça puisse permettre donc de jouer dans le secteur de l'immobilier, comme tout autour cela s'est fait, et s'est retrouvé donc pour faire donc que ce lieu ça reste malgré tout un lieu emblématique de l'histoire ouvrière industrielle, et en faire un lieu de lien social, de culture du quartier, et en participant au fondement de l'association du collectif Joff en 2010, portant l'inauguration du lieu en octobre 2011, dont les principaux responsables des collectivités territoriales ont prononcé ce jour-là des mots forts dans la reconnaissance et la responsabilité des luttes syndicales menées par la CGT. Il faut quand même le dire, puisque c'était quand même toute tendance politique compris. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet qui a été largement traité par ailleurs, notamment dans 3 livres qui ont été édités sur le sujet. Et Bolloré dans tout ça, on peut dire que dans toute cette séquence, Vincent Bolloré est resté dans l'ombre afin que n'apparaisse pas sa responsabilité dans ce désastre industriel. On se retrouve dans Yvandra en 2005, donc les restes de la société Bolloré Technologies, basée à Perpignan, à son client américain, Don Levin, transférant les droits de la marque Job aux États-Unis et se satisfaisant désormais de sa propre marque OCB. On voit ainsi que l'histoire de Job illustre des méthodes de pillage et de prédation utilisées par Bolloré. Elle met donc en lumière comment Vincent Bolloré se désengage du secteur industriel productif, mettant fin à l'heure du capital familial pour se tourner vers un capitalisme financier décomplexé. Aujourd'hui, le groupe Job est toujours contrôlé, est toujours contrôlé majoritairement par la famille. Il est coté en bourse et figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales. La fortune personnelle de Vincent Bolloré est estimée à 9,6 milliards de dollars en 2025. Il est totalement désengagé du secteur industriel papetier, après en avoir tiré la meilleure incandescence financière pour se développer vers 3 secteurs. Transport et logistique, avec 34 000 employés au niveau de 109 pays, est un acteur majeur dans le transport portuaire, ferroviaire et pétrolier. Bloc stockage d'électricité et système, chose nouvelle, mais là, stockage donc d'énergie, ça veut dire qu'aujourd'hui, bénéficier des fonds de l'Europe et donc des subsides aussi de l'État français. Et puis, celui qu'on va aborder de façon très construite peut-être, la communication. Participation dans Vivendi avec des actifs comme Canal+, Havas, Universal Music Group et d'autres filiales dans l'édition. Et l'édition musicale et de jeux vidéo. Et la liste déjà progresse. Déjà, on peut dire, progresse au moment où on se parle. Ce dernier secteur, nous allons le voir, a une forte motivation politique puisqu'il est mis en service d'une idéologie capitaliste d'extrême droite en son service. Mais là, bon, je crois que je laisserai maintenant la place à notre ami Natac pour peut-être vous présenter les différents aspects du système Bolloré.
Mémodio, une mémoire sonore.
Depuis ses 18 ans, Vincent Bolloré a fait carrière dans la banque d'affaires et sa fortune provient d'une série de coups boursiers et d'une énorme captation de rentes en Afrique grâce au système de la France-Afrique. Ces opérations financières nécessitent évidemment d'avoir des relations dans le monde de la finance pour convaincre d'autres investisseurs de mettre la main à la poche. De même, la France-Afrique est complètement basé sur des réseaux. De ce point de vue, le contexte familial de Bolloré a été très favorable. La famille de sa grand-mère maternelle est très amie avec la famille Rothschild, qui a créé la banque Edmond Rothschild en 1953, et avec la famille Bernheim, dont le fils, Antoine Bernheim, entrera comme dirigeant à la Banque Lazare en 1963. Et son père, Michel Bolloré, celui qui dirige les papeteries, était un copain de lycée d'Antoine Bernheim. Donc les Rothschild et Antoine Bernheim ont joué un rôle déterminant au début de la carrière. De plus, Michel Bolloré, le papa, est un grand ami de Georges Pompidou, un copain d'école qui part en vacances avec eux, etc. Et enfin, le contexte économique qui est en train d'évoluer est également très favorable. Les années 1970-1980 marquent un tournant dans l'histoire du capitalisme avec la mise en place de la libre circulation des capitaux. C'est la prise de pouvoir du capitalisme financier sur le capitalisme industriel. La recherche du profit immédiat prend le pas sur les stratégies de développement de sites industriels. Les banques d'affaires, qui sont jusque-là relativement marginales dans l'économie, se développent très rapidement et donc Vincent Bolloré va en profiter à fond. En 1970, à 18 ans, il commence sa carrière dans la finance au sein de la Banque de l'Union européenne industrielle et financière qui dépend de l'ancien empire industriel des Schneider. En 1975, 5 ans plus tard, à 23 ans, il prend le contrôle de cette banque et il devient directeur adjoint de la banque Edmond de Rothschild, à 23 ans, qui est dirigée par Bernard Ezembert, un ancien conseiller de Georges Pompidou. Tiens, tiens. Ezembert deviendra ensuite un allié clé de 85-86 pour financer ses premières opérations africaines et il présidera dans les années 90 plusieurs filiales du groupe Bolloré. Alors voyons le fonctionnement des poulies bretonnes, ça s'appelle les poulies bretonnes par rapport à Bolloré, hein, tellement c'est reconnu au niveau financier. La règle est simple, dans le conseil d'administration d'une société, celui qui possède plus de 50% des parts, de 50,1, ça suffit, est le patron du conseil d'administration et il a les pleins pouvoirs. Il fait ce qu'il veut, à condition, bien sûr, de préserver simplement une rentabilité suffisante pour les actionnaires minoritaires. Alors ici, on a l'organigramme de Bolloré et ce qui est la société qui dirige l'empire de Bolloré. Le petit Vincent met son capital dans une société qui s'appelle Bolloré Participation, qui a 8 500 000 euros de capital. Cette société-là s'associe avec d'autres financeurs, d'autres businessmen, pour créer Omnium Bolloré. Et dans Omnium Bolloré, Bolloré Participation a 50,2% des voix. Donc, Vincent Bolloré est également le patron d'Omnium Bolloré, qui représente le double de la mise initiale. Omnium Bolloré, idem, s'associe avec des financiers, crée la financière V comme Vincent, et dedans, eh ben, elle a 50,3%. Ah ben, ça tombe bien. Voilà. Donc, du coup, le petit camarade Vincent, il a multiplié par 4 son capital initial. Et idem avec la Sofibol, la société financière Bolloré, il multiplie par 8. Et après, idem avec la compagnie de l'Odé, il multiplie par 16. Et au bout du compte, la société Bolloré SE, là, il me faut les chiffres, la société Bolloré SE contrôle aujourd'hui un ensemble qui est valorisé à 15,6 milliards, pas millions, milliards d'euros à la Bourse de Paris. Par exemple, rien qu'avec la cession de ses activités portuaires et logistiques en Afrique, le groupe Bolloré est maintenant assis sur un pactole de 5,3 milliards d'euros en liquide. et 8 milliards de lignes de crédit supplémentaires. Donc ça lui donne une force de frappe financière de 13,3 milliards pour son empire médiatique. Donc le montage des poulies bretonnes, ça nécessite donc d'avoir suffisamment de relations dans le monde de la finance pour convaincre d'autres investisseurs de participer. Donc il y a bien sûr Eisenberg de la compagnie Rothschild et Antoine Bernheim de la banque Lazare, mais ils ne sont pas les seuls. Toutes les grandes banques françaises financent aussi ces coûts boursiers et prennent des parts dans ces sociétés en tant qu'actionnaires minoritaires. Le Crédit Lyonnais en premier, la Société Générale, le Crédit Mutuel, BNP, Paribas, le Crédit Agricole, etc. Alors voyons maintenant la France-Afrique. La France disposait d'un empire colonial immense qui représentait 17 fois sa superficie, ce qui lui donnait un statut de grande puissance au niveau mondial et un grand poids économique grâce à l'exploitation de toutes les ressources naturelles de ces pays. Énorme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a de nombreuses mobilisations populaires dans les colonies sur des revendications sociales et sur l'indépendance. La France n'a pas les moyens militaires, évidemment, de répondre à tout ça. On s'est pris Dieu de Belfou. Donc, elle met en place, pour couper l'herbe sous le pied des indépendantistes, la France met en place, dès les années 50, une stratégie qui consiste à donner un semblant d'autonomie en nous croyant à une petite élite idéologiquement soumise, soigneusement sélectionnée, étroitement contrôlée, quelques responsabilités administratives et financières, un petit peu de corruption, pour s'assurer de leur fidélité, tout en continuant à tirer les ficelles en coulisses, notamment en éliminant les vrais leaders indépendantistes. En 59-60, lorsque la France accorde officiellement l'indépendance à ses 16 anciennes colonies africaines, De Gaulle formalise cette stratégie et verrouille les modes de surveillance pour s'assurer en permanence de la loyauté des nouveaux chefs d'État officiellement indépendants. Ce sera donc une indépendance en trompe-l'œil avec un double but, maintenir le statut de puissance mondiale de la France et surtout préserver l'accès exclusif et sans limite des entreprises françaises à toutes les ressources naturelles de ces pays et leur monopole sur l'ensemble de l'économie de ces pays. Pour obtenir la déclaration d'indépendance, le futur chef de l'État, préalablement adoubé depuis des années par la France, doit signer un accord de coopération au plan diplomatique, économique, monétaire, militaire, culturel et au plan économique. Ces accords de coopération stipulent bien que ce sont les sociétés françaises qui doivent assurer le développement économique du pays. Alors, maintenant, les activités de Bolloré en Afrique. Ce contexte des réseaux occultes de la France-Afrique a joué un rôle essentiel dans le développement des activités de Bolloré en Afrique à partir des années 80. Par exemple, avec Bernard Eisenberg, que je citais tout à l'heure, dans la banque, mais aussi avec la banque Rivo. Cette banque a construit sa fortune dans l'exploitation coloniale des matières premières agricoles en Asie et en Afrique. C'est une banque qui est très, très, très liée au RPR. Vincent Bolloré a pu compter sur l'appui du groupe Rivo en entrant au capital de la société qui était la clé de voûte des montages financiers complexes du groupe qui s'appelle la Plantation des Terres Rouges. En 1996, fragilisé par des investissements hasardeux, empêtré dans des affaires de financement politique, de blanchiment, d'évasion fiscale, le groupe est au bord de la faillite et là, Bolloré en prend le contrôle pour une poignée d'euros. Alors, l'historique des investissements de Bolloré. En 1985, c'est l'acquisition de la Sofical, qui est propriétaire de la marque de cigarettes Bastos. Bolloré devient, en quelques années, le roi de la cigarette en Afrique. En 10 ans, il a une situation de quasi-monopole sur les marchés du tabac d'Afrique francophone. Et cette activité est la vache à lait du groupe et représente moins de 7% du chiffre d'affaires global, mais plus du tiers de ses bénéfices. Par ici la monnaie. En 86, c'est le rachat au groupe Suez de la Société commerciale d'affrètement et de combustible qui est spécialisé dans le transport de pétrole, la manutention portuaire. Donc le début. En 91, la compagnie Delmas-Vielleux, qui est numéro un du transport de marchandises vers et depuis l'Afrique. En 95, la prise de contrôle de Citarail, c'est la compagnie qui gère le transport ferroviaire, marchandises et passagers. Bolloré exploite 2700 km de voies ferrées en Afrique via trois concessions, donc Citarail, Camrail, Cameroun, Bénirail, le Bénin. En 1996, donc, il prend le contrôle du groupe Rivo et à cette occasion, il prend le contrôle de tout le secteur des plantations d'huile de palme et de caoutchouc en Afrique et en Asie, avec des plantations qui sont absolument gigantesques. Et dans le même temps, Bolloré profite de la vague de privatisation et de libéralisation imposée par le FMI pour s'arroger des concessions portuaires. Alors, le fonctionnement de l'économie fait que les leaders africains télécommandés par la France et les entreprises françaises piquaient absolument toutes les ressources des pays et les États, par contre, s'endettaient pour construire ou pour faire construire par ces entreprises françaises des infrastructures. Et donc le FMI, à un moment, a sifflé la fin de la partie et il a fallu privatiser. Donc là, vous avez la liste de tous les ports contrôlés par Bolloré. Et très rapidement, donc, ce sont le transport et la logistique en Afrique qui s'imposent comme les premières sources de revenus du groupe. Et héritage du groupe Rivo, là encore, le hasard fait bien les choses, les énormes profits générés arrivent dans des filiales qui sont situées au Luxembourg. On le verra tout à l'heure. Un paradis fiscal. Alors voyons maintenant le bilan, le lourd passif de Bolloré en Afrique. 1. Des entreprises du groupe Bolloré sont mises en cause par l'ONU pour leur exploitation illégale de ressources naturelles dans certaines régions d'Afrique, en particulier le colombo-tantalite, un minerai dont le commerce nourrit le trafic d'armes. Des milliers de tonnes de colombo-tantalite ont ainsi été chargées à partir de Kigali ou ont transité par le port de Dar es Salaam. C'est le rapport de l'ONU qui le dit. Dans un deuxième rapport en avril 2001, l'ONU indique que SDV, une filiale à 100% du groupe Bolloré, figure parmi les principaux maillons de ce réseau d'exploitation et de poursuite de la guerre. Un autre rapport de 2002 place SDV sur la liste des entreprises qui violent les principes directeurs de l'OCDE. Autre problème, la SOCFIN, Société financière de caoutchouc, qui exploite les plantations d'huile de palme et d'EVA en Asie et en Afrique, Cameroun, Nigeria, RDC, Ghana, Liberia, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, enfin il y a du stock. Des enquêtes d'associations, de journalistes et d'organisations internationales font état de dynamiques d'accaparement des terres lors de l'expansion des plantations, avec des communautés qui sont déplacées de force, privées de l'accès à leur territoire traditionnel et aux ressources naturelles, terres de culture vivrière, viande de brousse, plantes, poissons, forêts, rivières, etc. D'autres procédures sont en cours pour des faits similaires qui visent la Socapalm, une filiale de la SOCFIN au Cameroun. Et parmi les autres problèmes dénoncés dans ces rapports sur les plantations, le travail des mineurs, comme au Liberia, l'utilisation de produits très toxiques sans protection, les conditions de logement insalubres sont dans des bidonvilles, et la répression syndicale, les licenciements arbitraires, etc. Ensuite, les catastrophes ferroviaires, Cameroun en 2016, Bénin en 2017, à cause de matériel vétuste, surcharge des trains, non-respect des règles de sécurité, etc., etc. Et enfin, les affaires de corruption. Alors là, une petite citation. Le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix, indique en 2008 au sujet des relations entre le groupe et les dirigeants africains, je cite, « Les ministres on les connaît tous là-bas, ce sont des amis. Alors, de temps en temps, je vais être clair, on leur donne, quand ils ne sont plus ministres, la possibilité de devenir administrateur d'une de nos filiales. C'est pour leur sauver la face. Et puis, on sait qu'un jour, ils peuvent redevenir ministres. Et pour obtenir les concessions portuaires de Lomé et de Conakry, Vincent Bolloré a mis l'agence Havas au service des campagnes électorales des présidents sortants. Il a été mis en examen pour ça en 2018 pour corruption d'agents publics étrangers et, reconnaissant les faits, il s'est mis d'accord avec le parquet national financier sur une procédure de plaider coupable. Alors, pourquoi, en 2022, il décide de céder ses activités portuaires et logistiques qui représentent des revenus qui sont énormes? Alors, en 2022, c'est les activités portuaires et logistiques pour 5,7 milliards d'euros. Et en 2024, il cède le reste de ses activités dans ce secteur au groupe CMA-CGM pour 4,9 milliards d'euros. Donc, pourquoi il brade ça en 2022-2024? En fait, il ne brade pas du tout. C'est le moment où il peut tirer. C'est par pur opportunisme financier, il sait que c'est le moment où il peut tirer le plus d'argent, le meilleur prix, pour trois raisons. D'une part, la baisse de l'extraordinaire profitabilité de ces ports africains. La concurrence entre ports africains va croissante avec les investissements chinois, les grands armateurs qui sont en quête d'intégration verticale, donc qui cherchent à avoir des ports pour faire fonctionner leur trafic. Donc, ça contraint les gestionnaires à rogner sur les prix. Ça, c'est moyennement bon. De plus, en 2017, à partir de 2017, les réseaux de la France-Afrique commencent à être un peu en perte de vitesse, même beaucoup. Donc, les capacités de tenir en laisse les dirigeants de ces États diminuent. Et surtout, troisième raison, au lendemain de la pandémie de Covid-19, on a une demande très forte de transport maritime. Donc, les tarifs du fret maritime et les profits des transporteurs explosent. Et donc, c'est le moment où les acheteurs potentiels, les grands armateurs, débordent de liquidités. Et voilà, on encaisse. Mais par contre, ils gardent ses autres activités en Afrique, les immenses plantations et surtout l'empire médiatique qu'au contraire, il cherche à développer considérablement. Alors maintenant, voyons comment le Luxembourg est bien le centre de gravité du groupe. On voit sur cet organigramme, ici, donc c'est Bolloré et ceux qui est le centre, hein. Ici, on a les poulies bretonnes, les compagnies que je montrais tout à l'heure. Là, on a tout le système des médias, Hachette, Vivendi, etc. Et puis là, on a la partie Afrique, tout ce qui vient de la banque Rivo au début, hein, qui est là. Et quand on regarde chacune des sociétés, la plantation des terres rouges qui est au cœur, domiciliée au Luxembourg, la financière du gendarme financier au Luxembourg, celle-là, Luxembourg aussi, la Socfin Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg. Donc, se retrouvent au Luxembourg toutes les sociétés qui sont déterminante pour la finance du groupe Bolloré et joue un rôle clé dans la stratégie d'autocontrôle et joue un rôle de coffre-fort qui permet d'éviter l'impôt en France. Elles offrent des revenus supplémentaires aux dirigeants avec évidemment une fiscalité qui est très avantageuse. La plus importante de ces filiales luxembourgeoises, celle que je montrais tout à l'heure, Plantation des Terres Rouges, c'est à la fois une holding avec 600 millions de participations financières dans d'autres sociétés de la galaxie Bolloré, et une banque pour l'ensemble du groupe, avec 500 millions de créances sur diverses filiales via une convention de trésorerie intra-groupe. Ça, c'est un moyen classique pour les multinationales de faire que leurs filiales qui sont dans un pays doivent, entre guillemets, de l'argent à leurs filiales qui se trouvent dans le paradis fiscal. Comme ça, dans le pays d'origine, eh bien, les filiales ne font pas de profit ou très très peu, donc sont très très peu imposées. Et dans le paradis fiscal, eh bien, on s'arrange. Et la financière du Champ de Mars, celle qui est en blanc tout en haut, en fait, maintenant, elle a récupéré, quand il a vendu Africa Logistics, elle a récupéré toutes les sociétés financières qui étaient dans Africa Logistics. Et maintenant, pour conclure et pour mieux mesurer le rôle immense de son empire médiatique, je voudrais rappeler un concept qui est omniprésent, qui s'appelle la fabrique du consentement et qui a été initié par Bernays en 1928. Bernays, c'était un neveu de Freud. C'est le fondateur de ce qu'on appelle les relations publiques. Tous les gouvernements, toutes les grandes entreprises ont un service de relations publiques. Ce système des relations publiques, pour les entreprises ou les gouvernements, c'est comment façonner l'opinion pour ensuite mieux faire passer nos messages. Et en 1928, là, aux États-Unis, les femmes ne fumaient pas. Impensable. Ça privait les cigarettiers de la moitié du marché potentiel. Quand même un problème. Bon. Il fait une première campagne de pub, ça ne marche pas. Alors là, il met en place un système en deux temps. D'abord, on va façonner l'opinion. Il commence par promouvoir l'idéal de minceur pour les femmes en faisant discrètement appel à des photographes, des artistes, des journaux, des magazines pour promouvoir la beauté des femmes minces. Donc, dans l'esprit des gens, tout d'un coup, ça devient la norme, le critère d'être mince, donc belle, donc... En même temps, il commande toujours très, très discrètement, donc dans ces articles-là, jamais la société de pub de Bernays n'apparaît, évidemment. Hein, bon. De la même façon, il commande toujours très discrètement des études à plusieurs dizaines de leaders d'opinion, des médecins dans le domaine de la nutrition, pour qu'ils organisent des séminaires, des conférences sur la nutrition, sur les dangers des sucreries et les avantages de la minceur, qui sont relayés dans la presse et auprès du corps médical. Parce que les femmes américaines grignotaient beaucoup de petits gâteaux, de bonbons sucrés, etc. Lorsque ces messages, donc face à ce comportement compulsif des femmes, les autorités médicales se mettent à encourager de fumer des cigarettes plutôt que de manger des sucreries. Lorsque ces messages esthétiques et alimentaires deviennent une évidence dans la tête des gens, dans l'opinion, qui est mesurée par des sondages, alors eh ben, ils lancent la pub pour les clopes, pour les Lucky Strike, avec les images de pub, c'est des visages très minces, jeunes, la clope bien en évidence et tout. Et Lucky Strike, donc ceux qui l'avaient commandé, devient alors le leader du marché du tabac avec des profits qui augmentent à une vitesse colossale. Donc en fait, il faut commencer par lancer des messages subjectifs dans la population. Et lorsque on veut faire passer notre pub, valoriser ce qu'on veut, eh ben, il suffit d'attendre que ça corresponde avec les messages. Donc, imaginons que ça soit à Bolloré de faire ce boulot-là aujourd'hui. On va se faire peur. On va se faire peur. Il n'aurait pas besoin de commander discrètement quoi que ce soit. Il le fait faire par ses journalistes qui tient en laisse sur toutes ses chaînes de télé, de radio, les journaux. Et le mot « tenu en laisse » n'est pas exagéré. Au moins 500 journalistes sont partis lors de l'achat de leur rédaction par Bolloré. Le même Bolloré a déclaré, par exemple, devant le comité d'entreprise de Canal+, en 2015, je cite, « La haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte, et je ne plaisante pas en disant ça. » Et effectivement, il ne plaisantait pas. Il utilise en permanence ses techniques de fabrique du consentement pour façonner l'opinion et la rendre toujours plus réceptive aux idées de l'extrême droite. Et cet empire médiatique est une véritable machine de guerre pour propulser l'extrême droite. Par exemple, la diffusion des livres de Bardella et de Zemmour avec un contrôle total de l'ensemble de la chaîne, depuis la fabrication jusqu'à la vente.
Donc, oui, ça marche. Voilà une première partie de notre exposé. Donc, le micro est à la salle pour poser des questions. On parlera ensuite un peu plus donc, du Bolloré d'aujourd'hui. Mais déjà, il y a peut-être des questions, des commentaires, des avis.
Mémodio, une mémoire sonore.